Chapitre 28. Nouvelle apparition dans la maréchaussée. L'opinion de la communauté en dehors de la prison ne devint pas plus favorable à Glenham de jour en jour, et il ne se fit pas non plus d'amis dans la communauté des détenus. Trop abattu pour se mêler au troupeau des prisonniers qui se rassemblaient dans la cour afin d'oublier ensemble leur peine. Trop réservé et trop malheureux pour prendre part au pauvre régal de la taverne, il restait enfermé dans sa chambre et on se défiait de lui. Les uns disaient qu'il était trop fier, d'autres déclaraient qu'il était maussade et taciturne. D'autres le méprisaient comme un être sans courage qui se laissait écraser sous le poids de ses dettes. La communauté tout entière semblait l'éviter à cause de ses divers griefs, mais surtout pour le dernier qui impliquait une sorte de trahison domestique. Bientôt il s'abandonna tellement à sa solitude qu'il attendait pour se promener, que les détenus rassemblés au café eussent laissé la cour en possession des femmes et des enfants. La captivité ne tarda pas à agir sur lui. Il se sentait devenir désœuvré et indolent. Grâce à la connaissance qu'il avait acquise, dans cette chambre même, des influences délétères de la prison, il s'effraya de ses premiers symptômes. Évitant autant que possible le regard des autres hommes, évitant de s'interroger lui-même, il commença à changer très rapidement. Le premier venu se serait aperçu tout de suite que l'ombre des murs de la prison s'épaississait déjà sur son esprit affaissé. Un jour, il y avait environ 2 mois et demi qu'il était là, tandis qu'il lisait sans parvenir à soustraire à l'influence de la maréchaussée même les personnages imaginaires de son livre, il entendit qu'on s'arrêtait à sa porte et qu'on frappait. Il se leva pour aller ouvrir, et une voix aimable l'accueillit d'un « Comment vous portez-vous, monsieur Glenham? J'espère que ma visite ne vous importune pas. » C'était le brillant mollusque attaché au secrétariat. Le jeune Ferdinand paraissait meilleur enfant et plus aimable que jamais, bien qu'il eût un air de gaieté et de liberté singulièrement déplacé dans cette misérable prison. « Vous êtes surpris de me voir, monsieur Glenham, » dit-il en prenant le siège qu'Arthur venait de lui offrir. « Très surpris, je l'avoue. Mais pas désagréablement, je l'espère. Il s'en faut de beaucoup. À la bonne heure. Franchement, continua le séduisant mollusque, j'ai été très fâché que vous puissiez vous trouver dans la nécessité de faire ici une retraite temporaire. Et j'espère, ceci soit dit entre nous, de gentleman à gentleman, que nous n'y sommes pour rien, nous autres. Vous autres? Oui, nous tous, au bureau des circonlocutions. Je n'ai pas le moindre droit d'accuser de mes revers cet établissement remarquable. Ma parole d'honneur, dit avec vivacité le petit mollusque, j'en suis enchanté. Je suis charmé de vous entendre faire cette déclaration. J'aurais vraiment été désolé que nous fussions pour quelque chose dans votre embarras actuel. Glenham m'assura de nouveau qu'il acquittait les agents des circonlocutions de toute responsabilité. Tant mieux, je suis heureux de l'apprendre. Je craignais au fond que nous n'eussions contribué à vous amener ici, car il faut bien avouer que nous avons parfois le malheur de réduire les gens à des extrémités de ce genre. Ce n'est pas que nous ayons la moindre idée de les y réduire, mais si les gens tiennent absolument à venir s'empêtrer chez nous, ma foi, ce n'est pas notre faute. Sans partager entièrement votre avis à cet égard, répondit tristement Arthur, je vous remercie de l'intérêt que vous me témoignez. « Non, mais là, vraiment, je vous assure, reprit ce sans gêne de petit mollusque, que nous sommes les êtres les plus inoffensifs du monde. Vous me direz que notre institution n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Je ne prétends pas le contraire, mais elle n'a pas été créée et mise au monde pour autre chose. Elle ne fait donc que remplir son mandat, vous comprenez ? Du tout, je ne comprends pas. C'est que vous n'envisagez pas la question à son véritable point de vue. Et c'est là le point essentiel. Le véritable point de vue, c'est que tout ce que nous demandons au public, c'est qu'il nous laisse tranquilles. Trouvez-moi une administration qui puisse en dire autant. Oui, mais êtes-vous nommé là pour qu'on vous laisse tranquille ? Vous avez mis le doigt dessus, répliqua Ferdinand. On n'a jamais eu d'autre but en vue. Notre ministère n'est là que pour qu'on laisse tout tranquille. C'est là le fin mot. Sans doute il y a certaines formalités à remplir, car il faut bien faire semblant d'avoir autre chose à faire. Mais ce n'est qu'une frime. Quant aux formalités, nous ne les ménageons pas, Dieu merci. Voyez plutôt toutes les formalités par lesquelles vous avez déjà passé sans être plus avancé. « Pour cela, c'est vrai, » répondit Clennam. « Eh bien, envisagez la question à son véritable point de vue et vous verrez que nous remplissons officiellement et consciencieusement notre mission. C'est une partie de cricket sur une petite échelle. Il y a là une armée de joueurs qui cherchent toujours à envoyer la balle aux diverses administrations du service public et nous, nous sommes là pour arrêter la balle au passage. » Clennam demanda ce que devenaient les joueurs. L'évaporé petit mollusque répondit qu'il se fatiguait, qu'il n'en pouvait plus, que les balles qu'on leur envoyait finissaient par leur casser bras et jambes ou par leur briser l'échine, et qu'alors ils s'en allaient clopin-clopant, abandonnant la partie pour voir s'ils ne pouvaient pas s'amuser ailleurs. « Et voilà pourquoi, poursuivit-il, je me félicite encore une fois de ce que nous n'avons pas contribué à vous faire occuper ici un logement provisoire. Le contraire n'aurait rien de bien étonnant, car il faut bien reconnaître que nous avons la même malheureuse avec ceux qui s'obstinent à ne pas nous laisser tranquilles. Monsieur Clennam, je suis d'une entière franchise avec vous. Je sais qu'on peut avoir confiance en vous. Je vous ai parlé sans détour dès la première fois que je vous ai rencontré, lorsque j'ai vu que vous alliez vous donner le tort de ne pas nous laisser tranquilles. Au premier abord, j'ai reconnu que vous étiez inexpérimenté et impétueux, que vous aviez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, si j'ajoute, par trop de simplicité. Allez toujours, je ne vous en veux pas du tout. Que vous aviez par trop de simplicité. Je pensais donc que ce serait grand dommage de vous laisser fourvoyer, et je suis allé jusqu'à vous insinuer, ce qui n'était pas du tout dans mon rôle officiel, mais je ne suis jamais officiel quand je peux faire autrement, qu'à votre place, je chercherai un passe-temps plus récréatif. Vous n'avez pas voulu me croire, et vous avez mieux aimé continuer de vous ennuyer à tout cela. Une autre fois, croyez-moi, et ne recommencez plus. Il n'est guère probable que j'aie l'occasion de recommencer. Oh que si, vous sortirez d'ici, tout le monde sort d'ici. Il y a 1000 moyens de sortir d'ici. Seulement, ne revenez pas chez nous. C'est là le second but de ma visite. Je vous en prie, ne remettez plus les pieds dans nos bureaux. Ma parole d'honneur, continua Ferdinand d'un ton plein de confiance et d'intérêt, je ne peux pas vous dire combien je serais vexé de voir que vous ne profitassiez pas de votre expérience passée pour vous épargner l'ennui de perdre votre temps avec nous. Et l'invention ? Mon cher, répliqua Ferdinand, excusez ma franchise, mais je vous assure que personne ne se soucie de connaître votre invention, personne ne donnerait 2 sous pour la connaître. Personne dans vos bureaux, c'est possible. Dans nos bureaux, ni ailleurs. C'est le sort de toute invention nouvelle. Il n'y a personne qui ne se plaise à la tourner en ridicule. Vous ne vous figurez pas combien le monde tient à ce qu'on le laisse tranquille. Vous ne sauriez pas vous imaginer combien le génie de la nation, veuillez excuser la tournure parlementaire de cette locution pour laquelle je vous demande grâce, combien le génie de la nation aime qu'on le laisse tranquille. Croyez-moi, monsieur Clennam, poursuivit le pétulant petit mollusque de son ton le plus enjoué, le bureau des circonlocutions n'est pas un de ces méchants géants contre lesquels il faut aller briser une lance. C'est tout simplement un moulin qui broie une immense quantité de menu paille en se tournant au vent de l'opinion publique. Je serais bien fâché de le croire. Ce serait malheureux pour tout le monde. Comment pouvez-vous dire cela? Mais c'est tout le contraire. Il faut au monde de mauvaises plaisanteries. Nous aimons tous les mauvaises plaisanteries. Nous ne pourrions pas nous en passer. Avec quelques mauvaises plaisanteries et des coulisses bien graissées, tout va comme sur des roulettes, pourvu qu'on laisse tout tranquille. Après cette charmante profession de foi, que les mollusques dissimulaient sous une foule de mots d'ordre auxquels nul d'entre eux ne croyait, le chef de la nouvelle génération administrative se leva pour prendre congé. On ne pouvait rien voir de plus agréable que ses façons franches et courtoises, ni de mieux adapté aux circonstances particulières de sa visite que les airs élégants de ce gentleman accompli. Est-il permis de vous demander, dit-il, tandis que Clennam, sensible à la candeur et à la bonhomie de son hôte, lui donnait une poignée de main, s'il est vrai que feu Myrtle, notre regretté collègue de la Chambre des communes, soit pour quelque chose dans le désagrément passager que vous subissez ici? Je suis une des nombreuses dupes qu'il a ruinées, oui. « Il faut qu'il ait été joliment habile, remarqua Ferdinand Mollusque. Comme Arthur ne se sentait guère disposé à faire le panégyrique du défunt, il garda le silence. « Une fichue canaille, s'entend, reprit l'autre, mais terriblement habile. C'est une justice à lui rendre. Comme il vous jetait de la poudre aux yeux, comme il connaissait bien son monde, comme il vous mettait dedans, la droite escamoteur. » Et on voyait qu'au fond le petit mollusque éprouvait une admiration réelle pour le défunt. « J'espère, répondit Arthur, que la fin de cet intrigant et le tour qu'il a joué à ses dupes serviront de leçon aux autres. » « Mon cher monsieur Clennam, répliqua Ferdinand en riant, seriez-vous vraiment assez naïf pour entretenir un pareil espoir? Mais le premier escroc venu, qui aura le talent et la disposition de monsieur Merle, réussira aussi bien que lui. Excusez-moi, mais vous avez l'air de ne pas savoir que les hommes sont comme les abeilles, qui accourent dès qu'elles entendent battre la grosse caisse sur un vieux chaudron de fer blanc. C'est là tout le secret de l'art de gouverner les hommes. Il ne s'agit pas de réussir à leur persuader que le chaudron est fabriqué avec des métaux précieux. C'est là tout le mystère. Notre regretté collègue et consort n'ont pas eu d'autres recettes. Sans doute, on pourrait trouver ça et là, ajouta poliment Ferdinand, des cas exceptionnels où des gens ont été trompés par d'autres raisons qui leur paraissaient excellentes. Je pourrais en citer un exemple sans aller plus loin, mais l'exception ne fait que confirmer la règle. « Allons, bonjour. J'espère que lorsque j'aurai le plaisir de vous revoir, le soleil aura dissipé ce nuage éphémère. Ne faites pas un pas de plus, je vous en prie, je vous en prie. Je connais parfaitement le chemin, bonjour. » Sur ce, le meilleur et le plus élégant des mollusques descendit l'escalier, traversa la loge en fredonnant un air d'opéra, remonta à cheval dans la cour extérieure pour aller rejoindre son noble parent, qui l'attendait pour lui fournir quelques renseignements dont il avait besoin afin de répondre victorieusement à des gens de rien qui allaient se permettre d'interpeller le mollusque sur leur système administratif. En sortant, il dut se croiser avec M. Ragg qui entrait, car une ou deux minutes plus tard, le visage rougeau de ce gentleman, pareil à celui d'un Phébus sur le retour, brillait à la porte d'Arthur. « Comment vous portez-vous, monsieur ? » demanda l'homme de loi. « Puis-je faire quelque chose pour vous aujourd'hui ? » « Non, je vous remercie. » Le plaisir que causait à M. Ragg les embarras financiers d'un client ressemblait assez au bonheur qu'éprouve une maîtresse de maison devant des bocaux de cornichons ou des pots de confiture qu'elle vient de remplir. Ou bien encore au plaisir que ressent une blanchisseuse en face d'une lessive abondante, un éboueur devant un tombereau bien chargé ou tout autre industriel devant une masse d'affaires qui intéresse son métier. « Je passe ici tous les jours, monsieur. » dit le jurisconsulte d'un ton allègre, pour voir si quelque créancier retardataire continue de se présenter au greffe pour faire valoir ses droits contre vous. Et il n'en manque pas, monsieur. Ils viennent en foule, comme nous pouvions nous y attendre. Il insista dans cette remarque, comme s'il y avait de quoi se féliciter, en se frottant les mains et hochant la tête. « En foule, monsieur, » répéta M. Ragg, « comme nous pouvions raisonnablement nous y attendre. Il pleuvent de tous côtés. » Je ne vous importune plus guère à présent de mes visites. Lorsque je passe par ici, parce que je sais que vous ne vous souciez pas de voir du monde, et que vous me feriez prévenir par M. Chivery si vous aviez besoin de me parler. Mais cela ne m'empêche pas de venir à peu près tous les jours. Le moment serait-il mal choisi pour vous adresser une observation ? Demanda M. Ragg d'un ton câlin. Du tout, autant maintenant qu'en tout autre moment. L'opinion publique s'est beaucoup occupée de vous, monsieur. Je n'en doute pas. Ne serait-il pas à propos, monsieur, continua M. Ragg avec une éloquence encore plus insinuante, de faire enfin une légère concession à l'opinion publique? D'une manière ou d'une autre, nous lui faisons tous des concessions. Le fait est que nous y sommes bien obligés. Je ne puis me réhabiliter dans l'opinion publique, monsieur Ragg. Je n'ai pas le droit de l'espérer. Allons donc, monsieur Clennam. Il en coûte fort peu pour obtenir d'être transféré d'ici à la prison du King's Bench, et si l'opinion publique s'étonne que vous n'essayiez pas, ma foi, je ne vois vraiment. Il me semble que vous avez reconnu vous-même, monsieur Ragg, interrompit Arthur, quand je vous ai communiqué ma résolution à cet égard, que c'est simplement une affaire de goût. Certainement, monsieur, certainement. Mais est-ce de bon goût? Permettez-moi de vous demander si c'est de bon goût. Voilà la question. » L'éloquence de M. Rack était une douceur si persuasive qu'elle en devenait pathétique. J'allais presque dire, est-ce même un bon sentiment ? Votre faillite, monsieur, n'est pas une petite affaire, et vous dérogez à son importance en vous laissant claquemurer dans une méchante prison où un homme peut se faire coffrer pour une misérable banqueroute de quelques pence. N'est-ce pas manquer de dignité ? Je le crois pour ma part, et je n'en saurais vous dire, monsieur, combien de personnes m'en ont déjà parlé dans le même sens. On m'en faisait encore l'observation, pas plus tard qu'hier au soir, dans une taverne fréquentée par ce que j'aurais appelé l'élite des gens de loi, si moi-même je n'en étais pas une pratique assidue. On m'en faisait l'observation d'une manière qui a produit sur moi un effet désagréable. J'en étais blessé pour vous. Ce matin encore, à déjeuner, ma fille, ce n'est qu'une femme, direz-vous, mais cependant elle comprend bien ces choses-là, elle en a même une certaine expérience personnelle en sa qualité de plaignante dans le procès Rag contre Borkins. Ma fille, dis-je, m'en exprimait sa vive surprise. Or, devant de pareils faits, et considérant que personne ne saurait se mettre au-dessus de l'opinion publique, une légère concession à cette opinion ne serait-elle pas, voyons, monsieur, je ne veux pas pousser le raisonnement trop loin, ne serait-elle pas au moins une preuve d'amabilité ? Arthur s'était remis à rêver à la petite Dorrit, et la question de M. Rag demeura sans réponse. « Quant à moi, monsieur, poursuivit M. Rag, qui en tira la conclusion que son éloquence avait réduit Clenham à un état d'hésitation, j'ai pour principe de ne jamais songer à mes propres intérêts lorsqu'il s'agit des inclinations d'un client. Mais, connaissant votre obligeance, je répète que je désire vivement vous voir transférer à la prison du King's Bench. » Votre faillite a fait du bruit. Elle met en vue ceux qui sont chargés de la mener à bonne fin. Vous me poserez mieux vis-à-vis de mes collègues et de ma clientèle si vous consentez à changer de prison. Ce n'est pas que cette considération doive vous influencer en rien, monsieur, c'est tout bonnement une réflexion que je vous soumets. La solitude et la tristesse avaient déjà rendu le prisonnier si distrait, et sa pensée, emprisonnée entre les murs lugubres de la geôle, était déjà si habituée à ne causer qu'avec une seule petite figure silencieuse, qu'il eut à secouer une espèce de torpeur avant de pouvoir regarder M. Rag, se rappeler le fil de son discours et répondre vivement « Ma résolution est toujours la même et rien ne la changera. Ne me parlez plus de cela, je vous prie, ne m'en parlez plus. » M. Rag répliqua, sans pouvoir cacher qu'il se sentait piqué au vif et mortifié « Oh, fort bien, monsieur. Je reconnais que mes fonctions ne m'autorise pas à vous importuner plus longtemps à ce sujet. Mais vraiment, lorsque j'entends observer dans plusieurs sociétés, des sociétés très comme il faut, qu'un étranger peut faire ce qu'il lui plaît, mais qu'il est indigne d'un véritable Anglais de rester dans la prison de la maréchaussée, lorsque les glorieuses libertés conquises par ses ancêtres lui permettent d'habiter une prison plus distinguée, j'ai cru pouvoir m'écarter un peu de la ligne étroite qui m'est tracée par les devoirs de ma charge, pour répéter à mon client les observations d'un public judicieux. Personnellement, je n'émets aucune opinion à cet égard. À la bonne heure, fit Arthur. Oh non, personnellement, je n'ai aucune opinion à ce sujet. Autrement, j'aurais regretté, il y a quelques minutes, de voir un de mes clients recevoir, dans un endroit comme celui-ci, la visite d'un gentleman de noble famille, monté sur un cheval pur sang, mais j'ai senti que cela ne me regardait pas. Autrement, peut-être aussi, aurais-je désiré de pouvoir dire à un autre gentleman, qui a l'allure d'un militaire et qui attend encore dans la loge, que mon client n'a jamais eu l'intention de rester ici et qu'il est sur le point d'élire un domicile plus convenable. Mais il est clair qu'un homme de loi n'est qu'une machine et que cela ne me regarde pas. Votre bon plaisir est-il de voir ce gentleman, monsieur ? Un gentleman qui demande de me voir, dites-vous ? En effet, j'ai pris la liberté de vous le dire, bien que ça ne rentre pas dans mes attributions. Ayant entendu dire par hasard que j'étais votre homme d'affaires, ce gentleman a voulu attendre que j'eusse rempli près de vous ma courte mission. Par bonheur, ajouta M. Rack d'un ton plein de sarcasme, je n'ai pas poussé l'indiscrétion jusqu'à demander le nom de ce visiteur. Il faut sans doute que je le voie, soupira Clenham avec lassitude. Alors, votre bon plaisir est de le recevoir, monsieur ? Répéta M. Rack. « Suis-je autorisé par vous à donner cette réponse au gentleman, en repassant par la loge. « Oui, merci, monsieur. Je vous souhaite le bonjour. » Et il partit, effectivement, d'un air de mauvaise humeur. Le gentleman à l'allure militaire avait si peu réussi à éveiller la curiosité d'Arthur dans la situation d'esprit où il était, et dans les sombres préoccupations qui obsédaient son esprit, qu'il avait presque oublié déjà la visite annoncée lorsqu'un bruit de pas retentit lourdement sur l'escalier et vint le tirer de sa rêverie. Le visiteur ne paraissait pas gravir les marches avec beaucoup de vivacité ou d'empressement, mais on eût dit qu'il cherchait à faire exprès un tapage qu'il voulait rendre insultant. Il ne fut pas plus tôt sur le palier que Clennam cherchait à se rappeler où il avait déjà entendu un pas semblable sans pouvoir y réussir. Au reste, il n'eut guère le temps de réfléchir. Un coup de poing donné à la porte l'ouvrit toute grande, et sur le seuil, il aperçut Blandois, ce Blandois dont la disparition lui avait causé tant d'inquiétude. « Salve, camarade de prison !» s'écria Blandois. « Vous voulez me voir, à ce qu'il paraît. Me voici !» Avant qu'Arthur, indigné et surpris, eût eu le temps de lui répondre, Cavaletto suivit de près, et derrière lui, M. Panks. Ni l'un ni l'autre n'avait visité la prison depuis que Clennam habitait cette chambre. M. Panks, respirant avec bruit, se glissa vers la croisée, posa son chapeau par terre, passa dans ses cheveux les doigts de ses deux mains, puis se croisa les bras comme un homme qui se repose après une longue journée de travail. Baptiste, sans jamais quitter des yeux le compagnon de geôle dont il avait si grand peur autrefois, s'assit tout doucement sur le parquet, le dos appuyé contre la porte, se tenant par les malléoles, dans l'attitude enfin, sauf qu'il ressemblait plutôt à un chien d'arrêt qu'à un homme qui a peur, où nous l'avons vu au début de ce livre, assis devant le même homme, par une chaude matinée, dans l'ombre plus sinistre de la prison de Marseille. « Voilà deux imbéciles, » continua M. Blandois, « si devant Lagnier, si devant Rigaud, qui m'ont dit que vous désiriez me voir, camarade. Eh bien, me voici. » Jetant derrière lui un regard dédaigneux sur le lit qui le jour se transformait en commode, il s'y appuya sans ôter son chapeau, prit ses aises et se tint, d'un air provoquant, les mains dans ses goussets. « Vilain oiseau de mauvais augure !» s'écria Arthur. « Vous avez fait exprès de jeter un horrible soupçon sur la maison de ma mère. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a pu vous suggérer cette idée diabolique ?» M. Rigaud, après avoir froncé un instant les sourcils, se mit à rire. « Écoutez donc ce noble gentilhomme. Venez, tout le monde, écoutez cet enfant de la vertu. Ah ça, prenez garde, prenez garde. Il est possible, mon ami, que votre vivacité soit un peu compromettante. Sacrebleu, c'est que ça se pourrait bien. » « Signore, » interrompit Cavaletto, s'adressant aussi à Arthur, « pour commencer, écoutez-moi. Vous m'avez donné l'ordre de trouver ce Rigaud, n'est-il pas vrai ?»« C'est vrai. » »« Je commence donc, conséquent mentalement. » Madame Pleurniche aurait été très peinée de voir, entre autres erreurs de linguistique commises par son élève d'anglais, l'obstination de Baptiste à prolonger indéfiniment la queue des adverbes. « Par aller parmi mes compatriotes. » Je leur demande des nouvelles des Italiens récemment allemands arrivés à Londres. Puis je vais parmi les Français, puis parmi les Allemands. Ils me disent tout ce qu'ils savent. Mais personne ne peut rien m'apprendre de lui, du Rigaud que je cherche. À 15 reprises différentes, dit Cavaletto, étendant 3 fois le bras gauche et ouvrant 3 fois la main avec tant de rapidité qu'on avait peine à suivre le geste du regard, je demande après lui dans tous les endroits où se réunissent les étrangers, et 15 fois, Baptiste répète le même geste rapide, l'on ne peut rien me dire, mais, tandis qu'il s'appuyait d'une façon toute italienne sur la syllabe « mais », il secoua l'index de sa main droite en arrière légèrement et avec beaucoup de précaution. Mais, après avoir longtemps attendu, sans pouvoir découvrir s'il est ici, à Londres, quelqu'un me parle d'un soldat en cheveux blancs. Hé, non pas des cheveux comme ceux que vous voyez là, des cheveux blancs qui logent dans un certain endroit secrètement allemand. Mais, quelquefois, après le dîner, sort un peu pour fumer sa pipe. Il faut avoir de la patience, comme on dit en Italie, où on a tant besoin d'en avoir. Je prends donc patience, je demande où est ce certain endroit. L'un croit que c'est par ici, un autre dit que c'est par là. Eh bien, ce n'est ni par ici ni par là. J'attends patientissementalement. Enfin, je trouve l'endroit. Alors, je guette. Alors, je me cache, jusqu'à ce qu'enfin, il sort pour fumer sa pipe. C'est bien en effet le vieux soldat en cheveux gris qu'on m'avait annoncé. Mais, un temps d'arrêt très marqué et un mouvement très significatif de gauche à droite et de droite à gauche, de l'index ramené derrière la tête, c'est aussi l'homme que vous voyez là. Chose étonnante, sous l'empire de ces vieilles habitudes de soumission envers l'homme qui avait jeté sur lui le grappin, Baptiste, même encore en ce moment, lui avait adressé une sorte de salut en le montrant du doigt. « Eh bien, signore, acheva-t-il en se tournant de nouveau vers Arthur, j'ai attendu une bonne occasion. J'ai écrit à signor Panko, cette nouvelle forme de son nom parut rajeunir M. Panks, de venir m'aider. J'ai montré notre rigaud à sa fenêtre à signor Panko, qui le guettait souvent pendant le jour. La nuit, je me couchais non loin de la porte de la maison. Enfin, nous sommes entrés seulement aujourd'hui, et le voilà. Comme il n'a pas voulu se montrer en présence de l'illustre avocat, titre honorifique sous lequel Baptiste désignait M. Ragg, nous avons attendu tous les trois en bas, et signor Panko a monté la garde dans la rue. Vers la fin de ce récit, Clenham avait dirigé son regard vers l'impudent et sinistre visage du sieur Blandois. Lorsque les yeux de ce personnage rencontrèrent ceux d'Arthur, on vit le nez s'abaisser sur la moustache et la moustache se relever sous le nez. Quand ce nez et cette moustache eurent repris ensuite leur position naturelle, M. Rigaud fit claquer ses doigts 5 ou 6 fois, se penchant en avant pour diriger ce geste vers Clenham, comme si chaque claquement eût été un projectile palpable qu'il lui lançait à la figure. « Maintenant, monsieur le philosophe, s'écria Blandois, me direz-vous ce que vous me voulez ?»« Je veux savoir, répliqua Clenham, sans chercher à déguiser son dégoût, comment vous osez faire planer une accusation d'assassinat sur la maison de ma mère. Osez, oh oh, entendez-vous cela, vous autres? Osez, ah vraiment, par l'enfer, mon petit garçon, je vous trouve bien impudent. Je veux détruire ces odieux soupçons, continua Clenham. On vous mènera là-bas pour vous faire voir. Je veux aussi savoir ce qui vous a conduit dans cette maison le soir où j'ai eu si bonne envie de vous jeter du haut en bas de l'escalier. « Oh, vous avez beau froncer les sourcils en me regardant. Je vous connais assez pour savoir que vous n'êtes qu'un fanfaron et un poltron. Ce triste séjour ne m'a pas assez abattu pour m'empêcher de vous dire une vérité si simple et que vous savez si bien. » Blandois pâlit jusqu'aux lèvres, se caressa la moustache et murmura « Par l'enfer, mon petit garçon, vous êtes un peu compromettant pour madame votre respectable mère. » Puis il parut un instant indécis. Mais son irrésolution ne dura pas longtemps. Il s'assit avec un geste de crânerie menaçante en disant « Faites-moi donner une bouteille de vin. On trouve du vin dans cette baraque. Envoyez un de ces imbéciles me chercher une bouteille de vin. Je ne parle pas avant d'avoir quelque chose à boire. Allons, oui ou non ?»« Allez chercher ce qu'il demande, Cavaletto, » dit Arthur d'un ton de mépris, et il tira l'argent de sa poche. « Et que ce soit du Porto, entends-tu ?» « Brut de contrebandier !» ajouta M. Rigaud. « Je ne bois que du Porto, Porto !» Cependant, comme cette brute de contrebandier annonçait formellement, par un geste de son index éloquent, qu'il ne voulait pas quitter son poste, signor Panko offrit de se charger de cette commission. Il ne tarda pas à revenir avec une bouteille de Porto. Seulement, selon une coutume de l'endroit basée sur l'absence traditionnelle de tire-bouchon parmi les insolvables, les pauvres diables manquaient de bien autre chose. Elles se trouvaient déjà débouchées par le débit. « Allons, imbécile, un grand verre !» dit Rigaud. Signor Panko posa devant Rigaud le verre demandé, mais non sans éprouver un désir bien évident de le lui jeter à la tête. « Ah ah !» reprit Rigaud d'un ton vantard. « Un gentilhomme est toujours un gentilhomme, que diable ! Un gentilhomme a bien le droit de se faire servir, je présume. C'est dans mon caractère, à moi, de me faire servir. » Il remplit son verre à moitié, tandis qu'il parlait, et il l'avait déjà avalé qu'il parlait encore. « Ah » répéta-t-il en faisant claquer sa langue, « il n'y a pas bien longtemps que ce détenu-là est en prison. Je vois à votre mine, mon brave monsieur, que la captivité calmera votre sang bien plus vite qu'il n'adoucira ce porto. Tenez, voilà que ça commence déjà, car vous pâlissez et vous maigrissez à vue d'œil. Je vous salue. » Il vida de nouveau son verre, le tenant en l'air avant de boire et après avoir bu, pour laisser voir sa jolie petite main blanche. « Vos affaires, maintenant, » poursuivit-il. « Vous me paraissez assez libre en parole, si vous ne l'êtes pas trop ici de votre personne. Je suis assez libre pour vous donner les noms que vous méritez. Vous savez bien, et nous savons tous, que je vous ai encore ménagé. Pourvu que vous ajoutiez que je suis un gentilhomme, peu m'importe le reste. À cela près, tous les hommes se ressemblent. Mais, par exemple, vous aurez beau faire, vous ne passerez jamais pour un gentilhomme, tandis que moi, j'aurai beau faire, je n'aurai jamais l'air d'autre chose. Voilà la différence. Continuons. Les paroles, monsieur, n'ont jamais changé la valeur d'une carte, ni un coup de dé. Savez-vous cela? Oui? Eh bien, moi aussi. Je suis engagé dans une partie à laquelle les mots ne changeront rien. Maintenant qu'il se trouvait en face de Cavaletto et qu'il savait qu'on connaissait son histoire, il laissa tomber le masque assez transparent qu'il avait porté jusqu'alors et se montra à visage découvert, ne cherchant plus à cacher son infamie. « Oui, mon garçon, » reprit-il en faisant de nouveau claquer ses doigts, « je jouerai ma partie jusqu'au bout, malgré toutes les paroles du monde, et mort de ma vie et mort de mon âme, je la gagnerai, la partie. Vous tenez à savoir pourquoi j'ai voulu jouer ce petit tour que vous venez d'interrompre. Eh bien, sachez que j'avais, que j'ai encore, vous comprenez, que j'ai encore certaines marchandises à vendre à madame votre mère. Je lui ai expliqué la nature de cette marchandise et j'ai fixé mon prix. Or, sur le prix du marché, votre admirable mère est restée un peu trop calme, trop impassible, trop pétrifiée. En un mot, votre admirable mère m'a agacé. Pour varier mes plaisirs, pour m'amuser, quoi donc, il faut bien qu'un gentilhomme s'amuse aux dépens de quelqu'un, j'ai eu l'heureuse idée de disparaître. Une idée, voyez-vous, que votre mère, avec son caractère vigoureux, et mon cher Flintwinch lui-même, n'auraient pas été trop fâchés de mettre à exécution de leur côté. Ah, bah, bah, ne me regardez pas ainsi du haut en bas. Je le répète, ils n'auraient pas été trop fâchés, ils auraient été réjouis, ravis, enchantés. Vous faut-il une expression encore plus forte? Parlez, faites-vous servir. Il jeta sur le parquet ce qui restait au fond de son verre et faillit éclabousser Cavaletto. Cette circonstance parut attirer de nouveau son attention sur le petit Italien. Il posa son verre sur la table et reprit « Je ne veux pas remplir mon verre moi-même comme un paltoquet. Quoi donc, suis-je né pour me servir moi-même? Allons, arrive ici, Cavaletto, et verse-moi à boire. » Le petit Italien regarda Clennam dont les yeux étaient fixés sur Rigaud et, n'y lisant pas de contre-ordre, prit la bouteille et versa. Tandis qu'il obéissait à son ancien camarade, il venait se mêler à sa soumission d'autrefois, une légère envie de rire, une sorte de férocité étouffée, mais prête à jeter feu et flamme en un instant, comme des bûches embrasées cachées dans les cendres, ainsi que paraissait l'avoir deviné le gentilhomme cosmopolite qui surveillait avec attention les mouvements de son ami. Et la facilité avec laquelle ses divers sentiments s'alliaient à sa bonhomie insouciante quand il alla se rasseoir par terre, formait une contradiction de caractère véritablement remarquable. Cette heureuse idée, mon brave monsieur, reprit Rigaud après avoir bu, s'est trouvée en effet une idée assez heureuse, sous plus d'un rapport. Elle m'a amusé, elle a ennuyé votre chère maman et mon bien-aimé Flintwinch, elle vous a causé des angoisses. C'est le prix que je prends pour une leçon de politesse. Enfin, elle a inspiré à toutes les aimables personnes qui s'intéressent à moi la conviction que votre serviteur est un homme à craindre. Elle pouvait en outre contribuer à rendre madame votre mère plus raisonnable, elle pouvait, grâce au petit soupçon désagréable qui n'a pas échappé à votre profonde sagesse, l'engager à annoncer mystérieusement dans les journaux que la difficulté qui s'était élevée contre un certain marché serait aplanie pourvu qu'un certain individu prît la peine de reparaître. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous êtes venu mettre des bâtons dans les roues. À présent, à votre tour de parler, qu'est-ce que vous me voulez ? Jamais Arthur n'avait regretté sa captivité avec plus d'amertume qu'en ce moment, lorsque, après avoir retrouvé cet homme, il se voyait dans l'impossibilité de l'accompagner chez Madame Clennam. Toutes les difficultés mystérieuses, tous les dangers qu'il avait prévus et qui maintenant se rapprochaient et s'amassaient autour de sa maison, le trouvaient pieds et poings liés. « Peut-être, mon cher philosophe, ami de la vertu, imbécile, etc., peut-être auriez-vous mieux fait de me laisser tranquille, » continua Rigaud, cessant de boire, pour regarder par-dessus son verre avec un sourire sinistre. « Non, » répondit Clennam, « car au moins on saura que vous êtes vivant et qu'il ne vous est rien arrivé. Au moins vous n'échapperez pas à ces deux témoins, et ils pourront vous conduire devant le premier magistrat venu, devant une foule de gens. » « Mais ils ne me conduiront devant personne, » riposta Rigaud, faisant claquer ses doigts d'un air de menace triomphante. « Au diable vos témoins, au diable votre magistrat, au diable vous et vos amis. Je sais bien ce que je sais, allez. Est-ce que je n'ai pas une bonne marchandise à vendre ? Bah, bah, pauvre diable de débiteur, vous avez dérangé mes petits projets, c'est vrai. Eh bien après, qu'en résulte-t-il ? Rien pour vous, tout pour moi. Me montrer au grand jour, moi ? Ah, c'est là ce que vous voulez ? Je me montrerai bien moi-même, et plutôt qu'on ne voudrait, peut-être. Contrebandier, une plume, de l'encre et du papier. Allons vite ! Cavaletto se leva comme la première fois, et posa devant Rigaud tout ce qu'il venait de demander. Rigaud, après avoir souri d'un air sinistre à ses hideuses pensées, écrivit rapidement quelques lignes qu'il lut à haute voix dès qu'il eut fini. À Madame Clennam. On attend la réponse. Prison de la Maréchaussée, appartement de votre fils. Chère Madame, je suis désolé d'apprendre aujourd'hui de notre aimable prisonnier, qui a eu l'obligeance de mettre des espions en mes trousses, ne pouvant plus s'y mettre lui-même parce qu'il vit dans la retraite pour des raisons politiques, que vous avez tremblé pour mes jours. Rassurez-vous, chère Madame, je suis vivant, bien portant et constant. Je brûle d'impatience d'aller vous voir, mais je crains que, vu les circonstances, vous ne soyez pas encore décidé à accepter la petite proposition que j'ai eu l'honneur de vous faire. J'aurai donc le plaisir de me présenter chez vous d'aujourd'hui en 8. Vous voudrez bien l'accepter alors, oui ou non, mes conditions, avec toutes leurs conséquences. Je résiste au vif désir que j'ai de vous serrer dans mes bras et de conclure cette affaire intéressante, afin que vous puissiez prendre vos mesures en toute liberté, à votre satisfaction et à la mienne. En attendant, vous trouverez bon, puisque notre prisonnier a troublé mes arrangements de ménage, que je compte sur vous pour payer les frais de mon séjour et de mon entretien dans un hôtel. Recevez, chère madame, l'assurance de ma considération la plus parfaite et la plus distinguée. Rigaud Blandois. P.S. Mes amitiés à ce cher Flintwinch. P.P.S. Je baise les mains de Madame Jérémie. » Lorsqu'il eut achevé cette lecture, Rigaud plia sa lettre et la jeta avec un geste fanfaron aux pieds d'Arthur. « Hola, hé ! Que quelqu'un porte ce billet à son adresse et me rapporte la réponse. » « Cavaletto, demanda Arthur, voulez-vous vous charger de la lettre de ce drôle ?» Mais l'index expressif de Cavaletto indiqua de nouveau que son devoir était de veiller sur ce Rigaud qu'il avait eu tant de peine à trouver, et de rester le dos contre la porte, à regarder son homme en se tenant les malléoles. « Signor Panko offrit donc d'exécuter cette nouvelle commission. » Ses services ayant été acceptés, Cavaletto entr'ouvrit la porte de façon à permettre à Panks de se glisser hors de la chambre, puis la referma immédiatement. « Levez seulement un doigt sur moi, touchez-moi seulement avec une épithète, ayez seulement l'air de mettre en doute ma supériorité, tandis que je finis tranquillement ma bouteille de vin, des Rigaud, et je prends le même chemin que ma lettre, et j'annule les 8 jours de grâce que j'ai octroyés. Ah, vous vouliez me voir. Eh bien, vous me voyez. Comment me trouvez-vous ? Vous n'ignorez pas, répondit Arthur, avec un sentiment amer de son impuissance, que lorsque je vous ai fait chercher, je n'habitais pas une prison. Au diable, vous et votre prison ! Riposta sans se presser Rigaud, qui venait de prendre dans sa poche une blague à cigarette et occupait ses loisirs à en rouler quelques-unes pour son usage immédiat. « Je me moque de l'un comme de l'autre. Contrebandier, du feu !» Cavaletto se leva encore une fois et lui donna ce qu'il demandait. Il y avait quelque chose de terrible dans l'adresse silencieuse des mains blanches et froides du fumeur, dont les doigts s'agitaient et se tordaient les uns sur les autres, comme autant de serpents. Clenham ne put réprimer un frisson intérieur, comme s'il eût vu grouiller un nid de ces reptiles. « Voilà, animal !» continua Rigaud, avec un cri impérieux, qui semblait plutôt destiné à stimuler l'ardeur d'une mule ou d'un cheval d'Italie. La satanée vieille prison de Marseille était un endroit respectable comparé à cette geôle. Il y avait au moins un air de dignité dans les barreaux et les dalles de notre ancienne demeure. C'était une prison digne d'un homme. Mais ici, bah, ce n'est qu'un hôpital d'imbéciles. Il fuma sa cigarette, gardant son sinistre sourire tellement incrusté dans sa physionomie qu'il paraissait presque fumer avec le bas de son nez retourné plutôt qu'avec sa bouche, comme une figure fantastique de galop. Lorsqu'il eut allumé une seconde cigarette à la première, dont le bout n'était pas encore éteint, il ajouta en se tournant vers Clenham : « Il faut bien passer le temps en l'absence de ce fou. Il faut bien faire la causette. Un gentilhomme ne peut pas boire d'un vin capiteux du matin jusqu'au soir, autrement j'en aurais fait venir une autre bouteille. Savez-vous qu'elle est jolie, monsieur ? Ce n'est pas que ce soit mon caprice, mais sacré mille tonnerres, elle est jolie tout de même. Je vous félicite de votre choix. Je ne sais pas de qui vous parlez, et je ne tiens pas à le savoir. Telle la bella Gawana, monsieur, comme nous disons en Italie. De la Gawan, de la charmante Gawan. Vous étiez de la suite de son mari, je crois. Comment, monsieur, de sa suite ? Vous êtes un insolent. Dites que j'étais son ami. Est-ce que vous avez l'habitude de vendre tous vos amis ? Rigaud ôta sa cigarette de sa bouche et regarda Clenham d'un air qui révélait son étonnement. Mais il se remit aussitôt à fumer et répondit avec beaucoup de sang-froid : « Je vends tout ce qui s'achète. Comment donc vivent vos avocats, vos hommes d'État, vos intrigants, vos boursicotiers ? Vous-même, comment vivez-vous ? Comment vous trouvez-vous ici ? N'avez-vous pas vendu quelqu'un de vos amis ? Morbleu, je crois savoir que si. » Clenham se tourna vers la croisée et se mit à regarder le mur qui lui faisait face. « Le fait est, monsieur, continua Rigaud, que la société se vend elle-même. Elle m'a vendu, moi qui vous parle, et je la vends à mon tour. Je vois que vous connaissez une dame de mes amis. Une belle dame aussi, ma foi. Un caractère bien trempé. Voyons un peu. Comment se nomme-t-elle ? N'était-ce pas Wade ? » Arthur ne répondit rien, mais Rigaud vit qu'il avait visé juste. « Oui, poursuivit-il, cette belle dame au caractère énergique m'accoste dans la rue, et naturellement je suis flatté. Je lui réponds. Elle me fait l'honneur de m'avouer, en toute confidence, qu'elle a de la curiosité et des chagrins. « Vous n'êtes sans doute pas plus honorable qu'on ne l'est d'ordinaire, me dit-elle. Je lui réponds. « Madame, je suis un gentilhomme à la vie et à la mort. Mais pour ce qui est d'être honorable, je ne le suis pas plus que la plupart de mes semblables. J'aurais honte d'une pareille faiblesse. Là-dessus, elle est assez bonne pour me féliciter. La seule différence qu'il y ait entre nous et les autres, me dit-elle, c'est que vous faites un aveu qu'il se garde bien de faire. Car notre ami connaît le monde. J'accepte ses éloges avec galanterie et politesse. La politesse et la galanterie font partie de mon caractère. Alors elle me fait une proposition. Elle me dit qu'elle a vu que j'étais intime avec les Gawan, que, pour le moment, je lui parais être le chat favori de la maison, l'ami de la famille, que sa curiosité et ses chagrins lui inspirent le désir de connaître leurs mouvements, de savoir quel genre d'existence ils mènent, comment la belle Gawana est aimée et le reste. Elle n'est pas riche, mais elle m'offre pour ma peine telle et telle petite récompense en échange des renseignements que je pourrais lui fournir, et moi, gracieusement, car il est dans mon caractère de ne rien faire qu'avec grâce, je consens à accepter ces récompenses. Que voulez-vous ? Ainsi va le monde. C'est la mode. » Bien que Clenham lui eût tourné le dos et qu'il conservât cette position jusqu'à la fin de l'entretien, Rigaud continua à fixer sur son hôte ses yeux perçants, trop rapprochés l'un de l'autre. Il reconnaissait, évidemment, rien qu'au maintien de Clenham, tandis qu'il passait avec impudence d'un aveu à un autre, qu'il ne lui apprenait rien de nouveau. « Pouh, la belle Gawana !» ajouta-t-il en allumant une troisième cigarette et en expulsant une bouffée de tabac, comme s'il lui suffisait d'un souffle pour faire également disparaître la jolie femme en question. Bien jolie, mais bien imprudente. Elle a eu tort, la belle Gawana, de faire des cachotteries des lettres de ses anciens amoureux dans sa cellule en haut de la montagne pour que son mari ne les vît pas. Non, non, ce n'est pas bien. Pouh, pouh, la Gawana s'est conduite là comme une enfant. « Je voudrais bien, » s'écria Clennam à haute et intelligible voix, « que Banks fût déjà revenu, car la présence de cette âme souille cette chambre. »« C'est possible, mais il triomphe ici comme partout ailleurs, » répondit Rigaud d'un ton victorieux et en faisant encore claquer ses doigts. « Il l'a toujours fait et il le fera toujours. » Puis, s'allongeant sur les trois seules chaises qui se trouvaient dans la chambre, outre celle qu'occupait Clennam, il se mit à chanter en se frappant sur la poitrine pour indiquer que c'était lui qui était le héros de la chanson. « Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe ici si tard, dessus le quai ?»« Allons, chante donc le refrain, animal. Tu savais le chanter autrefois dans l'autre geôle. Chante, ou par tous les saints qui sont morts lapidés, je me croirais insulté, ce qui pourrait me rendre compromettant. Car si je me fâche, il y a des gens qui sont encore de ce monde qui pourraient bien regretter de n'avoir pas été lapidés avec les saints du paradis. C'est un chevalier du roi, compagnon de la Marjolaine, c'est un chevalier du roi, dessus le quai. » Obéissant en partie à ses anciennes habitudes de soumission, en partie à la crainte de compromettre son bienfaiteur par un refus, peut-être aussi parce qu'il aimait autant chanter que de ne rien faire, Cavaletto répéta ce refrain. Rigaud rit aux éclats et se mit à fumer les yeux fermés. Au bout d'un quart d'heure environ, le pas de Signor Panco retentit de nouveau sur les marches de l'escalier. Mais l'intervalle avait paru d'une longueur insupportable à Clennam. Panks ne revenait pas seul. Lorsque Cavaletto ouvrit la porte, elle donna passage non seulement au remorqueur, mais à M. Jérémy Flintwinch. Ce dernier personnage ne se fut pas plutôt montré que Rigaud s'élança au-devant de lui et l'embrassa à grand bruit. « Comment vous trouvez-vous, monsieur ?» dit M. Flintwinch, dès qu'il put se dégager, ce qu'il fit violemment sans aucune cérémonie. « Non, merci, j'en ai assez. » Ceci était une réponse à une autre menace de démonstration affectueuse de la part de l'ami qu'il venait de retrouver. « Eh bien, Arthur, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos du chat qui dort et du chat qui se cache ? Vous voyez que j'avais raison. » Il restait aussi imperturbable que jamais, hochant la tête de l'air d'un homme qui se sent le droit de faire des serments et regardant tout autour de lui. « Voilà donc cette fameuse prison pour dettes, » continua M. Flintwinch. « Ah, Arthur, vous auriez pu trouver un marché mieux choisi pour vendre vos cochons, comme on dit. » Si Arthur avait beaucoup de patience, Rigaud n'en avait pas du tout. Il saisit le petit Flintwinch par les deux bouts de son collet et le secoua avec un enjouement féroce en s'écriant « Le diable emporte votre marché, vos cochons et votre gardeur de cochons !»« Vite, la réponse à ma lettre !»« Si cela ne vous gêne pas trop de me lâcher un instant, monsieur, » répliqua Jérémy, « je commencerai par donner à monsieur Arthur un petit mot dont on m'a chargé pour lui. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le billet, griffonné par la main affaiblie de Madame Clennam sur un chiffon de papier, ne renfermait que ces mots. « J'espère qu'il vous suffira de vous être ruiné. Ne cherchez pas à ruiner les autres par-dessus le marché. Jérémy Flintwinch est mon messager et mon représentant. Votre affectionné M.G. » Clennam lut ces lignes deux fois, sans prononcer un mot, puis il déchira le papier en morceaux. Pendant qu'il lisait, Rigaud, grimpant sur un fauteuil, s'était assis sur le dos du meuble, les pieds appuyés sur l'étoffe qui tapissait le fond. « Eh bien, beau Flintwinch, » dit-il après avoir vu déchirer le billet, « la réponse à ma lettre. Madame Clennam ne vous a pas écrit, monsieur Blandois, parce qu'elle a les mains crispées par la goutte et qu'elle a cru vous satisfaire aussi bien par une réponse verbale. » Monsieur Jérémy semblait tirer du fond de son gosier ses paroles péniblement et à contre-cœur. Elle vous présente ses compliments et dit qu'au bout du compte, elle ne vous trouve pas trop exigeant et qu'elle accepte. Mais sans préjudice du rendez-vous qui tient toujours bon pour aujourd'hui en 8. Monsieur Rigaud, après un nouvel accès de fou rire, descendit de son trône en disant « Bon, je vais chercher un hôtel. » Tandis qu'il parlait, son regard rencontra Cavaletto, qui n'avait pas abandonné son poste. « Allons, animal, reprit-il, tu m'as suivi contre mon gré. Maintenant, tu vas me suivre malgré toi. Quand je vous disais, mes petits reptiles, que je suis fait pour être servi, j'exige que ce contrebandier devienne mon domestique pendant 8 jours. » Cavaletto interrogea du regard Clenham, qui lui fit signe qu'il pouvait accompagner Blandois, mais qui ajouta aussitôt « À moins, toutefois, que vous n'ayez peur de lui. » Le petit Italien répliqua avec un geste énergiquement négatif de son index. « Non, maître, je n'ai plus peur de lui depuis que j'ai déclaré hardiment comment je l'ai eu un moment pour camarade. » Rigaud ne daigna répondre à ce dialogue que lorsqu'il eut allumé sa dernière cigarette et qu'il fut tout prêt à partir. « Peur de lui ! » s'écria-t-il en les regardant l'un après l'autre. « Pouh ! Mes enfants, mes poupards, mes petites marionnettes, vous avez tous peur de lui. Vous venez de lui faire servir une bouteille de vin ici. Vous allez le nourrir et le loger à vos frais là-bas. Vous n'osez pas lever un doigt sur lui, ni lui adresser une épithète malsonnante. Non, il est dans son caractère de triompher partout. Pouf ! C'est un chevalier du roi, compagnon de la Marjolaine, etc. » Après avoir ainsi appliqué le refrain à sa propre personne, il s'éloigna à grands pas, suivi de près par Cavaletto, dont il n'aurait peut-être pas exigé les services, s'il n'avait pas deviné qu'il ne serait pas facile de se débarrasser autrement du petit Italien. M. Flintwinch, après s'être gratté le menton et avoir regardé autour de lui d'une façon peu flatteuse pour le local, fit un petit signe de tête à Clenham et se dirigea vers la porte. M. Panks, toujours repentant et abattu, partit à son tour, après avoir écouté avec beaucoup d'attention quelques recommandations secrètes d'Arthur, et répondu à voix basse qu'il ne perdrait pas cette affaire de vue et qu'il la suivrait jusqu'au bout. Le prisonnier se sentit plus méprisé, plus dédaigné, plus repoussé, plus impuissant, plus misérable et plus découragé qu'auparavant, quand il se trouva seul. Chapitre 29. Combat de générosité dans la maréchaussée. Les vives inquiétudes et les remords sont de tristes compagnons de prison. Passer le jour à ruminer ses chagrins et les nuits sans sommeil, c'est un mauvais moyen de se fortifier contre le malheur. Le lendemain matin, Clenham sentit que sa santé l'abandonnait aussi rapidement que l'avait abandonné son courage, et que le poids sous lequel il n'avait fait que se courber jusqu'alors commençait à l'accabler. Chaque nuit, vers 1 ou 1 heure, il avait quitté son lit de misère pour aller s'asseoir devant la croisée et regarder les lampes blafardes qui éclairaient la cour, ou chercher au ciel les premiers rayons d'un jour encore lointain. Maintenant, lorsque venait la nuit, il ne pouvait pas même se décider à se coucher. Il était en proie à une agitation inquiète et fiévreuse. Le séjour de la prison lui causait des impatiences pleines d'angoisse. La conviction que son cœur allait se briser et qu'il mourrait là lui faisait éprouver des souffrances indicibles. L'horreur et le dégoût que lui inspirait la prison étaient tels qu'il avait de la peine à respirer. Cette sensation d'asphyxie devenait par moments si violente qu'il se mettait quelquefois à la croisée, se tenant la gorge et tout haletant. En même temps, il avait soif de respirer à plein poumon une autre atmosphère, il brûlait de franchir ce mur lugubre et monotone. Soif ardente, désir brûlant qui allait jusqu'à menacer sa raison. Bien d'autres personnes avaient éprouvé les mêmes sensations qui, chez elles comme chez lui, s'étaient épuisées par l'effet même de leur violence et de leur continuité. Il ne lui fallut que 2 nuits et 1 jour pour les user à son tour. Elles ne reparurent plus que par accès irréguliers, mais affaiblies et à des intervalles de plus en plus éloignés. Un calme lugubre leur succéda, et vers le milieu de la semaine, Arthur était en proie à l'abattement d'une fièvre lente. En l'absence de Panks et de Cavaletto, il n'avait d'autre visite à craindre que celle des Pleurniches. Il tenait à éloigner ce digne couple, car, dans l'état maladif de ses nerfs, il rougissait de laisser voir sa faiblesse et son découragement. Il recherchait avant tout la solitude. Il écrivit quelques lignes à Madame Pleurniche, lui disant qu'il était très occupé de ses affaires et que l'obligation où il se trouvait de s'y dévouer le forçait à renoncer pour quelque temps à l'agréable consolation que lui causait la présence d'un visage ami. Quant à John, qui se montrait tous les jours à une certaine heure, celle où on le relevait de sa faction, pour venir lui demander s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour lui, Clennam s'en tirait en faisant semblant d'être occupé à écrire et en répondant gaiement qu'il n'avait besoin de rien. Ni l'un ni l'autre ne firent plus aucune allusion au sujet de la seule conversation un peu longue qu'ils eussent jamais eue ensemble. Cependant, à travers les diverses phases de son infortune, Clennam était toujours poursuivi par le secret que cet entretien lui avait révélé. Le sixième des 8 jours de grâce accordés par Rigaud était un jour humide, chaud et brumeux. On eût dit que dans la prison, la pauvreté honteuse, mesquine, sordide, en profitait pour pousser comme un champignon sous l'influence de cette atmosphère étouffante. La tête malade, le cœur fatigué, Arthur avait veillé toute la nuit, écoutant la pluie qui tombait sur les pavés de la cour et rêvant à celle qui arrosait plus doucement les prairies et les jardins de la campagne lointaine. Un cercle blafard de lueurs jaunâtres se leva à l'horizon en guise de soleil, et le prisonnier suivait de l'œil le petit morceau de lumière que ces tristes rayons plaquaient sur le mur de sa chambre, comme une pièce toute neuve sur les guenilles de la prison. Il avait entendu ouvrir la grille. Les visiteurs mal chaussés qui attendaient au dehors avaient passé d'un pas traîneur. On balayait, on pompait, on allait et venait. En un mot, la matinée de la maréchaussée avait commencé. Clennam, si malade et si faible qu'il fut obligé de se reposer plusieurs fois en faisant sa toilette, s'était traîné vers la croisée ouverte et avait sommeillé dans son fauteuil, tandis que la vieille femme de ménage rangeait un peu la chambre. Ébloui par le défaut de sommeil et la diète, car son appétit l'avait abandonné et tout ce qu'il mangeait lui paraissait insipide, il se rappelait avoir eu 2 ou 3 fois, pendant la nuit, une sorte de délire. Il avait entendu, dans l'atmosphère épaisse, des fragments d'air et de chansons qui n'avaient d'existence, il le savait bien, que dans son imagination fiévreuse. Maintenant que la fatigue venait lui fermer les yeux, il les entendit de nouveau. Il crut qu'on lui parlait, qu'il répondait, et le bruit de sa propre voix le faisait tressaillir. Tandis qu'il sommeillait et rêvassait de la sorte, si incapable de mesurer le temps, qu'il aurait pu prendre indifféremment 1 minute pour 1 heure ou 1 heure pour 1 minute, il se figura qu'il se trouvait dans un jardin dont une brise humide et chaude éveillait les parfums. Il lui fallut un si grand effort pour lever la tête afin de savoir ce qu'il en était que, lorsqu'il regarda autour de lui, cette sensation avait déjà vieilli et ne lui laissait plus qu'un souvenir importun. Sur la table, à côté de sa tasse, il aperçut un bouquet fraîchement cueilli, un merveilleux bouquet composé de fleurs les plus belles et les mieux choisies. Jamais il n'avait rien vu de si beau. Il prit les fleurs, en respira l'odeur, les porta à sa tête brûlante, les replaça sur la table, puis étendit ses mains desséchées au-dessus de ce frais bouquet, comme d'autres en hiver approchent d'un bon feu leurs mains frileuses. Ce ne fut qu'après s'être réjoui les yeux pendant quelque temps de ce spectacle nouveau pour lui qu'il commença à se demander d'où lui venaient ces fleurs. Il ouvrit la porte pour questionner la femme de ménage qui avait dû les laisser là, mais elle était déjà partie, et même depuis assez longtemps sans doute, car le thé qu'il avait à côté de lui était tout froid. Il essaya de boire un peu, mais en vain, l'odeur du thé lui faisait mal. Il se traîna donc encore une fois vers son fauteuil et posa les fleurs sur le petit guéridon d'autrefois. Lorsque l'espèce d'étourdissement causé par ce mouvement eut cessé, il retomba dans le même état de torpeur qu'auparavant. La brise lui apportait encore un des airs qu'il avait entendus pendant la nuit, quand la porte parut s'ouvrir tout doucement, sans qu'on fît tourner la clé dans la serrure, et au bout d'une minute ou deux, une petite visiteuse bien douce et bien calme, vêtue d'un manteau, s'arrêta sur le seuil. Puis elle rejeta en arrière le manteau qui tomba à ses pieds et montra la petite Dorit dans sa vieille robe usée d'autrefois. Il crut la voir trembler, se croiser les mains, sourire, verser des larmes. Arthur se réveilla et poussa un cri de surprise. Il vit dans l'expression du visage aimant et plein de pitié qui se tourna vers lui, aussi clairement que dans un miroir, combien il était changé. Elle s'avança vers lui, et posant les mains sur sa poitrine pour l'empêcher de se lever, elle s'agenouilla à ses pieds et pleura sur lui, comme la rosée du ciel avait pleuré sur les fleurs. La petite Dorrit, car c'était bien elle, l'appela par son nom. « Oh, mon meilleur ami, cher monsieur Clennam, que je ne vous vois pas pleurer, à moins que ce ne soit de plaisir, comme j'ose l'espérer. Voilà votre pauvre enfant revenu, si fidèle, si tendre, si peu gâté par la fortune. Il y avait des consolations ineffables dans le son de sa voix, dans son regard, dans chaque caresse de sa main. Tandis qu'Arthur la serrait sur son cœur, elle continua, « On ne m'avait pas dit que vous étiez malade. » Elle passa doucement le bras autour du cou du prisonnier, dont elle posa la tête sur sa poitrine, mit une main sur sa tête, et la joue appuyée sur cette main, elle le berça, aussi tendrement et aussi innocemment, Dieu le sait, qu'elle avait choyé son père, dans cette même chambre, lorsqu'elle n'était qu'une enfant, et qu'elle aurait eu tant de besoin elle-même des soins qu'elle prodiguait aux autres. Lorsqu'Arthur put parler, il s'écria, « Comment, c'est vous qui venez me voir, et avec cette robe ?»« J'espérais que vous aimeriez mieux me voir dans ce costume qu'avec la plus belle toilette. Je l'ai toujours gardée, afin de ne pas oublier. Et cependant, je n'avais pas besoin de cela. Je ne suis pas seul, comme vous voyez, j'ai amené une ancienne amie. » Tournant la tête, Arthur aperçut Maggie, coiffée de l'énorme bonnet d'autrefois qu'on lui avait fait quitter depuis longtemps, armée de son panier des anciens jours et poussant des gloussements de joie. « Je ne suis arrivé que d'hier au soir avec Édouard. J'ai envoyé tout de suite chez Madame Pleurniche pour avoir de vos nouvelles et vous faire savoir que j'étais revenu. Ce n'est qu'alors que j'ai appris que vous étiez ici. N'auriez-vous pas, par hasard, pensé à moi la nuit dernière? Je suis presque sûr que vous avez dû y songer un peu. J'en jure par moi qui ai tant pensé à vous. Le temps m'a paru si long jusqu'au matin. J'ai pensé à vous. » Il hésita, ne sachant quel nom lui donner. Elle devina immédiatement pourquoi il s'arrêtait. « Vous ne m'avez pas encore appelé par mon vrai nom. Vous savez qu'elle doit toujours être mon vrai nom pour vous. J'ai pensé à vous, petite Dorrit, tous les jours, toutes les heures, à tous les moments que j'ai passés ici. Bien vrai, bien vrai. » Il ne put se défendre d'un sentiment de honte, en voyant la joie qui illuminait le visage de sa jeune amie. Lui, banqueroutier, découragé, malade, déshonoré, prisonnier. J'étais ici avant qu'on eût ouvert les portes, mais j'ai eu peur de me montrer à vous tout de suite. Je vous aurais fait plus de mal que de bien. Car la vieille prison m'était tout à la fois si familière et pourtant si triste. Elle me rappelait tant de souvenirs de mon pauvre père et de vous aussi, que cela m'a beaucoup ému d'abord. Mais nous sommes allés chez M. Chivery avant de venir à la geôle. Il nous a fait entrer et nous a donné la chambre de John, ma pauvre vieille chambre, vous savez, et nous y avons attendu un peu. C'est moi qui vous ai apporté les fleurs, mais vous ne m'avez pas entendu. Elle avait l'air plus femme que lorsqu'elle avait quitté l'Angleterre, et le chaud soleil d'Italie avait un peu bruni son visage. Mais, du reste, elle n'était pas changée. Il retrouvait surtout chez elle la même tendresse profonde et timide qu'il lui avait toujours vue, et toujours avec émotion. Si cette tendresse avait pris depuis peu un sens nouveau qui lui serrait le cœur, ce n'était pas que la jeune fille fût changée, elle était restée la même, mais lui, on lui avait ouvert les yeux. Elle ôta son vieux chapeau, l'accrocha à son ancienne place, et commença, sans bruit, avec l'aide de Maggie, à rendre la chambre aussi gaie et aussi propre que possible. Elle y répandit sur le parquet de l'eau de senteur. Puis on déballa le panier, rempli de raisins et de fruits, que l'on mit de côté avec les autres provisions. Ensuite, la petite Dorrit dit un mot à l'oreille de Maggie, qui sortit un moment pour le faire remplir de nouveau. Et le panier ne tarda pas à reparaître, plein de provisions nouvelles. On en tira immédiatement certaines boissons et certaines gelées rafraîchissantes, avec un poulet rôti et de l'eau rougie pour le second service. Ces divers préparatifs achevés, elle prit dans sa poche son vieux nécessaire pour faire un rideau à la croisée. Et au milieu du calme qui régnait maintenant dans cette chambre, et qui semblait de là rayonner sur toute la bruyante prison, Arthur, moins abattu, regarda travailler la petite Dorrit. La vue de cette modeste petite tête penchée sur son ouvrage, de ses doigts toujours agiles qui reprenaient leur travail d'autrefois, bien que la jeune fille ne fût pas assez absorbée sur sa tâche, pour ne pas lever fréquemment vers le malade des yeux compatissants qui se remplissaient de larmes avant de se baisser, Le bonheur d'être ainsi consolé et soigné, la pensée que tout le dévouement de cette noble nature se tournait vers lui dans son adversité, pour répandre sur sa misère les richesses d'une bonté inépuisable, ne contribuait pas à raffermir la voix ni la main tremblante de Clennam, ni à diminuer sa faiblesse, mais elle lui inspirait une force morale qui croissait avec son amour, comme il l'aimait tendrement. Il n'y a pas de mots pour le dire. Tandis qu'ils restaient assis l'un auprès de l'autre, enveloppés de l'ombre du mur fatal, cette ombre tombait à présent sur lui comme une auréole. Sa petite amie ne voulait pas lui permettre de parler beaucoup, et enfoncée dans son fauteuil, il se contentait de la regarder. De temps à autre, elle se levait pour lui donner à boire ou pour arranger le coussin qu'elle avait posé derrière sa tête. Puis elle reprenait doucement sa place auprès de lui et se penchait de nouveau sur son ouvrage. L'ombre changea de place en même temps que le soleil. Mais la petite Dorit ne quitta pas la sienne, si ce n'est pour soigner son malade. Lorsque le soleil se coucha, elle était encore là. Elle avait achevé sa tâche, et sa main, tremblant sur le bras du fauteuil depuis la dernière fois qu'elle avait donné à boire à Clennam, y restait encore hésitante. Arthur y posa aussi sa main, que la petite Dorit serra dans une étreinte tremblante et suppliante. « Cher monsieur Clennam, j'ai quelque chose à vous dire avant de vous quitter. Depuis que je suis ici, je n'ose, mais il faut que je vous le dise. Moi aussi, chère petite Dorit, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle leva la main avec un mouvement nerveux, comme pour lui fermer la bouche, mais elle la laissa retomber en tremblant à la place qu'elle occupait auparavant. « Je ne quitterai plus l'Angleterre. Mon frère veut encore voyager. Mais moi, je reste. Il m'a toujours été attaché, et maintenant il se montre si reconnaissant, beaucoup trop reconnaissant, car je n'ai fait que mon devoir, en restant auprès de lui pendant sa maladie, qu'il dit que je suis libre de demeurer où je l'entends et de faire ce que je veux. » « Tout ce qu'il désire, dit-il, c'est de me voir heureuse. » On voyait au ciel une étoile brillante. La petite Dorit la regardait pendant qu'elle parlait, comme si elle eût vu briller là le vœu le plus cher de son cœur. « Vous devinez sans doute que mon frère est revenu pour chercher le testament de mon cher père et pour prendre possession de son héritage. Il dit que s'il y a un testament, je ne peux pas manquer d'y être doté richement. » Et que dans le cas où on n'en trouverait pas, il me rendra riche par lui-même. » Arthur allait parler, mais elle leva encore une fois sa petite main tremblante, et il se tut. « Je n'ai pas besoin d'argent, je n'y tiens pas. À quoi me servirait-il, à moins qu'il ne puisse vous être utile? Je ne me croirai jamais riche tant que vous serez ici. Je me sentirai plus malheureuse que les plus pauvres d'entre les pauvres, tant que vous aurez de pareils chagrins. Laissez-moi vous prêter tout ce que j'ai. Laissez-moi vous prouver que je n'ai pas oublié, que je ne peux jamais oublier, combien vous avez été bon pour moi lorsque j'habitais cette prison. Cher monsieur Clennam, rendez-moi la plus heureuse des femmes en disant oui. Rendez-moi aussi heureuse que je puis l'être en vous laissant ici. Et, si vous ne voulez pas accepter ce soir, permettez-moi du moins d'emporter l'espoir que vous allez y songer sérieusement. Non pas dans votre intérêt, mais dans le mien. Faites-le pour moi seul. Vous me procurerez la plus grande joie que je puisse éprouver dans ce monde, celle de savoir que j'aurais pu vous rendre service et payer une obole de la grande dette d'affection et de reconnaissance que j'ai contractée envers vous. Je ne peux pas vous dire tout ce que je voudrais vous dire. Non, je ne peux pas vous visiter dans cet endroit que j'ai habité si longtemps. Je ne peux pas songer que vous êtes dans cette prison où j'ai vu tant de choses et me montrer aussi calme, aussi consolante que je le devrais. Mes larmes couleront malgré moi. Il me sera impossible de les réprimer. Mais, je vous en prie, ne vous détournez pas de votre petite Dorit dans votre affliction. Je vous en prie et vous en supplie de tout mon cœur souffrant, mon ami, mon cher ami, prenez tout ce que je possède et faites que ce soit un bonheur pour moi d'être riche. L'étoile avait éclairé son visage jusqu'à ce moment, lorsqu'elle pencha la tête sur la main de Clennam unie à la sienne. Il faisait plus sombre quand Arthur l'entoura de son bras, la releva et lui répondit doucement « Non, ma chère, chère petite Dorit, non, mon enfant, je ne dois pas vous entendre parler d'un pareil sacrifice. La liberté et l'espérance me coûteraient trop cher s'il me fallait les acheter à ce prix. je ne pourrais pas supporter la honte ni le reproche de les avoir ainsi recouvrés. Mais je prends le ciel à témoin de la reconnaissance, de l'amour que je ressens de votre offre, tout en la refusant. Et pourtant, vous ne voulez pas souffrir que je vous reste dévoué dans votre affliction? Dites plutôt que c'est moi qui veux vous rester dévoué, ma bien-aimée petite Dorit. Si, à l'époque où vous n'aviez d'autre domicile que cette prison, d'autres vêtements que la robe que vous portez, je m'étais mieux compris, je ne parle que de moi-même, si j'avais lu plus clairement dans les secrets de mon cœur, si, à travers ma réserve et ma méfiance, j'avais entrevu la clarté que je vois briller maintenant, maintenant qu'elle s'est éloignée de moi et que mes pas chancelants ne pourront jamais la rattraper, si je vous avais dit que je vous aimais et que je vous respectais, non pas comme ma pauvre enfant, ainsi que je vous en donnais le nom, mais comme une femme dont la main fidèle pouvait m'élever au-dessus de moi-même et me rendre plus heureux et meilleur, si j'avais saisi l'occasion qui ne se représentera plus, hélas, que ne l'ai-je fait? Et si quelque obstacle était venu nous séparer alors, quand je me trouvais dans une situation à peu près prospère et que vous étiez pauvre, alors j'aurais pu répondre en d'autres termes à votre offre généreuse, tout en rougissant encore de l'accepter. Aujourd'hui, chère petite Dorit, je ne dois pas y songer, je n'y songerai jamais. » Les petites mains jointes d'Aimé adressèrent une supplication plus éloquente et plus pathétique que tous les discours du monde. « Je suis assez déshonoré sans cela, ma petite Dorit. Je ne dois pas descendre aussi bas et vous entraîner, vous, si chère, si généreuse, si bonne, dans ma chute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense. N'y pensons plus. » Il la prit dans ses bras comme si elle eût été sa fille. « Je suis plus vieux, plus triste, plus indigne de vous qu'à l'époque que nous devons oublier l'un et l'autre, et vous ne devez pas me voir tel que j'étais, mais tel que je suis. » Recevez ce baiser d'adieu sur votre joue, mon enfant, vous qui auriez pu devenir autre chose que mon enfant, sans me devenir plus cher, recevez-le de moi, pauvre homme ruiné, que le sort éloigne et sépare de vous à jamais, et qui est arrivé au bout de sa carrière, lorsque vous ne faites que commencer la vôtre. Je n'ai pas le courage de vous demander de m'oublier dans mon humiliation, mais je vous demande, lorsque vous penserez à moi, de me voir seulement désormais tel que je suis aujourd'hui. » La cloche qui annonçait aux visiteurs que l'heure du départ allait sonner se fit entendre. Arthur alla prendre le manteau de la jeune fille et l'en enveloppa avec une tendre sollicitude. « Encore un mot, ma petite Dorit, un mot qui me coûte beaucoup à dire, mais que je dois vous dire néanmoins. Il y a longtemps que l'époque où vous et cette prison, vous aviez quelque chose en commun, est passée. Vous me comprenez ?»« Oh, vous n'aurez pas le courage de me dire, » s'écria la petite Dorit, en pleurant amèrement et en levant ses mains jointes avec un geste de supplication, de me dire que je ne dois plus revenir. Vous ne m'abandonnerez pas ainsi. Je vous le dirais si je pouvais, mais je n'ai pas le courage de me priver pour toujours de la vue de ce cher visage, de renoncer à la douceur de le revoir. Seulement, ne revenez pas trop tôt, ne revenez pas souvent. Cette prison est un endroit impur, et je sais trop que j'en sens déjà l'impure influence. Vous appartenez à un théâtre beaucoup plus brillant, beaucoup plus digne de vous. Il ne faut pas tourner de ce côté vos regards en arrière. C'est devant vous, vers un avenir bien différent et bien plus heureux, qu'il faut les diriger. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense. » Maggie, qui avait conservé un air attristé pendant toute la durée de cet entretien, s'écria alors « Oh, faites-le entrer dans un hôpital! Je vous en prie, petite mère, faites-le entrer dans un hôpital. Il ne reprendra jamais sa bonne mine s'il n'entre pas dans un hôpital. » Et alors la mignonne petite femme, qui était toujours à tourner son rouet, pourra aller à son armoire avec la princesse et lui dire « Pourquoi cachez-vous votre poulet froid là-dedans ? » Et puis alors on ouvrira le buffet et on y prendra du poulet tant qu'on voudra et tout le monde sera content. » Cette interruption vint fort à propos pour les avertir que la cloche avait presque cessé de retentir. Après avoir de nouveau enveloppé la petite Dorit dans son manteau avec la même sollicitude, Arthur lui donna le bras et descendit avec elle, bien qu'avant cette visite, il se fût à peine senti la force de se tenir debout. Tous les autres visiteurs étaient déjà partis, et la grille se referma derrière elle avec un grincement de désolation et de désespoir qui résonna comme un glas funèbre aux oreilles de Clennam et lui rendit le sentiment de sa faiblesse. Ce fut un long et fatigant voyage pour lui que de remonter l'escalier, et lorsqu'il rentra dans sa chambre solitaire et sombre, il se sentit plus misérable que jamais. Il était près de minuit, et depuis longtemps aucun bruit ne se faisait entendre dans la prison, lorsque les marches de l'escalier crièrent sous le poids d'un pas furtif. Une main discrète frappa avec une clé à la porte d'Arthur. C'était John Chivery, fils. Il se glissa dans la chambre, chaussé seulement de ses bas, et lui dit à voix basse, « C'est contraire à tous les règlements, mais tant pis. J'étais décidé à traverser la cour pour monter chez vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien du tout, monsieur. J'attendais Mademoiselle Dorrit dans la première cour lorsqu'elle est sortie. J'ai pensé que vous seriez content de savoir qu'il y avait eu quelqu'un pour la reconduire. Merci, merci. Vous l'avez ramenée chez elle, John ?
Je ne l'ai quittée qu'à la porte de son hôtel. C'est le même où M. Dorrit était descendu. Mademoiselle Dorrit a voulu s'en retourner à pied, et elle m'a parlé avec tant de bonté que cela m'a tout bouleversé. Devinez pourquoi elle a mieux aimé marcher quand il y avait des voitures à deux pas.
Je n'en sais rien, John.
Parce qu'elle voulait me parler de vous. Elle m'a dit, « John, vous avez toujours été un garçon honorable, et si vous me promettez de le soigner et de ne jamais le laisser manquer de secours et de consolation, lorsque je ne serai pas là, cela diminuera de beaucoup mes inquiétudes. Je le lui ai promis, et maintenant je suis votre ami, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort. » Clennam, vivement touché, tendit la main à ce cœur loyal. « Avant que je la prenne, » continua John, qui regarda la main sans s'éloigner de la porte, « devinez ce que mademoiselle m'a chargé de vous dire. » Clennam secoua la tête. « Dites-lui, » répéta John d'une voix très distincte, quoiqu'un peu ému, que sa petite Dorrit ne cessera jamais de l'aimer. Voilà ce qu'elle voulait vous faire savoir. Là, trouvez-vous que je me sois conduit honorablement, monsieur ?
Oui, oui, John.
Ne direz-vous pas à mademoiselle Dorrit que je me suis conduit honorablement ?
Certainement.
Alors, voilà ma main, monsieur, et je suis votre ami à la vie, à la mort. Après avoir reçu et rendu une cordiale poignée de main, John disparut en faisant craquer l'escalier sous le même pas furtif et traversa, pieds nus, le pavé de la cour. Puis, refermant les grilles derrière lui, passa dans l'entrée où il avait laissé ses souliers. Quand le chemin aurait été pavé de fer rouge, pariant que John ne l'aurait pas traversé avec moins de dévouement pour venir réjouir le cœur de Clennam par cet heureux message.